Aujourd'hui, je voudrais juste que vous regardiez la personne à côté de toi, puis dis-lui, il est mort. Il est mort. Mais dimanche, il va ressusciter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est mort. Il y a un prédicateur, je ne sais pas, haïtien ou africain, un pasteur assez âgé. Il a dit à la fin de sa vie, sur le message de la croix, il prêchait le message. Puis il dit, aujourd'hui c'est triste, il est mort, mais dit dimanche, j'en viens. Alléluia. C'était la bonne nouvelle qu'il voulait nous annoncer, que Jésus est mort et ressuscité. Alléluia, pour nous pardonner. Aujourd'hui, c'est une journée, vendredi saint qu'on appelle pour nous les chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui ont trotté dans ma tête. Beaucoup d'affaires qui sont venues. Comment bâtir tout ça? Vous savez, quand on commence à étudier le ministère de la croix, pourquoi Jésus est venu, le péché, la réconciliation. Oh, qu'il y a du bagage, On en a des heures et des heures et des heures d'études. On s'enferme dans tout ça. J'ai essayé de réunir aujourd'hui trois points, trois façons de voir la croix. Pourquoi, premièrement, que Jésus est venu? Je veux axer aussi sur comprendre la justice de Dieu. Parce que Dieu, il reste saint. Et Dieu ne changera jamais. Et ça a pris un sacrifice pour nous pardonner. Mais la justice de Dieu, elle est importante. Et je voudrais regarder ça avec vous aujourd'hui, sur la mort de Jésus-Christ. Pourquoi qu'il est venu? Comment qu'il a prêché également avec les pharisiens? Pourquoi qu'il le détestait? Parce que les frères, ils ne l'ont pas aimé vraiment. Hein? Donc, ils ont tout fait pour s'en débarrasser. On va regarder tout ça aujourd'hui en espérant que ça va vous faire rappeler de où qu'on vient, qui nous sommes en réalité et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour ma vie, pour votre vie. Combien sont d'accord avec ça? Dire, il l'a tellement fait pour moi. On va se rappeler aujourd'hui de qu'est-ce qu'il a fait tant que ça pour moi. Il a fait beaucoup de choses. Si vous voulez, on va lire le premier verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et j'ai appelé ce message « Christ, notre Pâque, le sang de la victoire ». Donc, on va regarder ça attentivement. 2 Corinthiens 5, verset 21. « Jésus a été celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Seigneur, on veut te remercier. Pour les chants, on veut te remercier, Seigneur, pour ce temps de louange, d'adoration, Seigneur, pour les musiciens, les musiciennes, Seigneur, qui nous ont emportés, Seigneur, vers ton trône de grâce. Seigneur, maintenant, bénis ta parole, Seigneur. Donne-moi la facilité de partager, Seigneur, qu'est-ce que tu as placé, Seigneur, comme pensée. Et Père, nous voulons glorifier ton nom et te dire merci pour l'amour, merci pour la grâce que tu es venu, Seigneur, pour nous sauver. Père, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc, nous voyons dans notre texte que Jésus est celui qui n'a pas connu le péché, mais Dieu le Père le fait devenir péché pour nous. Jésus a accepté, je dirais, le sacrifice de la croix, la mort pour pardonner nos péchés et nos offenses. Jésus est toujours resté saint. Il a toujours resté parfait. Il a toujours été un homme qui est venu sur la terre comme un homme pur, sans tache, sans péché, comme Dieu, et Dieu est sans tache et sans péché. Jésus a seulement été traité comme s'il était coupable de tous les péchés, alors qu'il n'avait commis aucun péché. Donc, Jésus s'est abaissé. Il a pris un corps d'homme, il s'est abaissé, il s'est humilié pour se rendre obéissant à Dieu. Il a pris ce corps d'homme-là et Jésus a accepté volontairement de délaisser sa gloire céleste. Imagine, on lit Apocalypse, on lit les prophètes qui ont vu la gloire de Dieu. Je ne pense pas que Jésus était en disant, il faut que je prenne un corps d'homme. Ça n'a pas de sens. Mais volontairement, il l'a fait. Il a pris un corps. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Il s'est humilié, il nous a enseigné le chemin pour aller vers son Père. Jésus-Christ était le prophète, il était celui qui nous annonçait le cœur du Père, le cœur de Dieu, il a porté nos péchés, nous venons justice de Dieu en Jésus-Christ. La justice de Dieu, vous savez, c'est un terme qui est tellement compliqué. Souvent, parce que moi, ça ne fait pas donner les études de terme de la justice de Dieu là, avec vous. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et je dirais que la justice de Dieu, qui signifie jouir d'une bonne position, c'est-à-dire que c'est une personne qui jouit d'une bonne position parce qu'il est droit devant Dieu. Et Dieu te voit sans reproche. Donc, jouir de Dieu, être en bonne position en Dieu, tu as la force de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Et le but de la création, Adam et Ève jouissaient d'une bonne position devant Dieu. Dieu créait pour nous. Alléluia. Et les gens disent, oh, on va aller au ciel, oh, on va aller au ciel. Un jour, on va revenir sur terre. Alléluia. Parce que la terre est créée pour nous. Le ciel est créé pour Dieu. Genèse 1, vous verrez. Donc, Adam était des bons. Tout était permis dans le jardin, sauf de manger du bien et du mal. Et on sait que l'ennemi, Satan, est entré et qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et défendu de manger. Donc, leur geste des autres. Adam et Ève ont également communion avec Dieu. Ils vont mourir, ils vont avoir conscience à cela. Ils vont mourir à cause des autres. Et aussi, ils vont prendre la communion avec Dieu. Désobéissance, donc, les connecter avec Dieu a été perdu. C'était la cause qui est venue pour nous redonner une communion avec le Père. Dites-moi. Donc, Adam et Ève ont perdu leur position d'être juste devant Dieu. Ils ont perdu la foi. Ça rappelle la mort spirituelle. Également, la Bible nous dit que le Seigneur dit, l'homme va travailler à la sueur de son front. Satan a volé la bénédiction de l'homme, la gérance de la terre, son autorité, son pouvoir, qu'on dirigeait la terre, et l'homme est devenu l'esclave de Satan. Ça, c'est la cause première qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. À cause de cette désobéissance, maintenant, le péché est entré, l'homme va mourir, l'homme également va perdre sa perte de contact avec Dieu, une mort spirituelle, et il va connaître également une mort éternelle s'il refuse Dieu un jour dans sa vie. Mais si, dans tout cela, maintenant, le péché est entré dans le monde, la maladie est entrée, la haine est entrée, la guerre est entrée, tout est entré face au péché, face à la chute de l'homme. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui que je veux vous annoncer. Dans Genèse 3, 15, lisons ensemble. Et c'est un texte qui résume bien la parole de Dieu. Face à Jésus-Christ, Genèse 3, 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la taille et tu lui blesseras le talon. » Ça nous parle ici qu'un jour, qu'il y aura un sauveur qui viendra pour vaincre notre ennemi. Il y a une guerre spirituelle qui a commencé dans le jardin de l'Éden. Et Jésus va revenir, reprendre ce que l'homme s'est fait voler. Donc, Satan a volé la bénédiction. Il vous a volé votre bénédiction. Il m'a volé ma bénédiction. Mais Jésus est venu pour nous redonner. Mais pour cela, il fallait que Jésus-Christ soit qui souffre en réalité, qui va avoir de la souffrance à travers de cette parole que je vous dis là. Donc, Jésus est venu pour enlever toute autorité à son ennemi. Mais il y aura la souffrance qui va suivre également tout cela. L'amour du Père nous a envoyé un Fils, son unique, pour nous racheter de la malédiction du péché, de l'esclavage du péché. Jésus est venu nous redonner, me redonner l'espoir d'être racheté de mes péchés. Dites-moi un grand amen. C'est le message que je veux prêcher aujourd'hui. C'est le message du salut. Alléluia. Le salut, il faut qu'il soit prêché. Frères et sœurs, on a besoin de retrouver nos racines. La racine, on a peur aujourd'hui de parler du péché. On dirait que c'est une honte de parler du péché. Le péché reste un péché. Et Dieu n'aime pas le péché. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père céleste. Alléluia. La venue de Jésus, il est venu restaurer la justice du Père. C'est Jésus qui restaure les chemins. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et Dieu ne vient qu'au Père que par moi. Jésus sa parole est esprit et vie, et pas juste lettre, elle donne la vie. Alléluia! Jésus est venu pour que nous retrouvions notre communion avec le Père. Romains, chapitre 3, versets 23-25, ça nous dit, car tous, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propriatoire, afin de montrer. Alléluia. Donc, il nous dit que seul Dieu peut t'accorder sa justice. Alléluia. Mais pour être juste, ça prend la faveur de Dieu, ça prend le sang. Sans le sang, il n'y a pas de il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de justice de Dieu, personne n'est juste sans crédit à ton voisin. Je suis juste à cause du sang. C'est un cas. Dieu nous dit, et sans tes visions de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si tu veux être fils de Dieu en Jésus-Christ et jouir d'une bonne réputation devant Dieu et de jouir de sa faveur, ça prend le sang. Ça prend le sang de l'agneau qui enlève. Non, il n'y a pas de justice. Seul le sang de Jésus peut t'emporter ta guérison. Les médecins peuvent t'emporter la guérison, mais la guérison d'âme, d'esprit, le salut vient de Dieu. Alléluia. En train où le sang est. Seul le sang de Christ peut t'apporter la réconciliation avec le Père. Sans le sang, il n'y a rien qui se passe. Seul le sang va te sauver de la colère. Sang de Jésus. Et le salut de Jésus va te rendre juste devant Dieu le Père. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour nous annoncer le salut de Jean 3, 16, vous connaissez Dieu? Dites-le, récitez-le, je n'ai pas besoin de récitez-le avec moi, car Dieu a tant aimé. C'est ça, vous connaissez les versets, alléluia. Et Romains 5, 8 qui nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous sommes encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » C'est l'amour, c'est la grâce, c'est la compassion de Dieu pour nos vies. Il y a un homme, Jean-Baptiste, nous a dit en voyant Jésus, Jean 1, 29, il a dit ceci, c'est intéressant. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus arriver, alléluia, il dit ça, c'est le sauveur du monde. Jean-Baptiste reconnaît Jésus-Christ comme l'agneau parfait qui enlève le péché du monde. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs, c'était les Lévites qui faisaient tous les sacrifices d'animaux. Et ça prenait du sang. Je ne sais pas, Dieu aime l'odeur du sang. C'est comme ça, je ne peux pas rien y changer. Donc, pour que les gens reçoivent le pardon, ça prend le sang. Mais Jean-Baptiste dit ici, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, le péché était juste couvert. Mais Jésus ôte, déracine, enlève le péché par le sang. Le sang des animaux couvrait, mais le sang de Jésus enlève. Et le message de Jésus, il était annoncé une bonne nouvelle. Et son message portait sur un mot. Et c'est pour moi et c'est pour vous. Si vous voulez être délivré de l'esclavage de vos péchés, d'être pardonné, d'être réconcilié avec votre Père, soit de retrouver votre communion avec lui, soit de retrouver votre vie spirituelle, d'avoir une communion avec le Père, d'avoir la justice de Dieu sur votre vie, soit de retrouver la position, votre position de jour, d'une bonne position devant le Seigneur et avoir la vie éternelle, ça passe par Jésus-Christ. Et Jésus a pris un mot pas tellement populaire. Marc, chapitre 1, et verset 15. Jésus a dit, il y disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Luc 13, verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Donc, le message de Jésus Et ceci pour chacun de nous, pour chaque personne. Le temps est accompli. Aujourd'hui, si tu vis dans le royaume de Dieu, si tu veux vivre pour le Seigneur et de connaître l'amour du Père, de jouir de sa justice, d'être en bonne position devant mon Père, tu dois passer par la repentance. Le message n'a pas changé. L'homme veut tasser le message pour plaire que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais Dieu nous appelle à la repentance. Alléluia. Quand on prêche de repentance, on dirait... Non, c'est, repentance, c'est d'admettre ses erreurs. Alléluia. La repentance, c'est de dire, je suis sur une mauvaise voie, puis je change de voie pour prendre une bonne direction. C'est un peu la repentance. Et d'aller dans une direction opposée, c'est comme si vous marchiez, et que vous réalisez, vous n'êtes pas sur une bonne route, vous faites demi-tour, et là, vous dites, OK, là, c'est bon. Mais avant de faire demi-tour, vous allez y penser, vous allez y réfléchir, vous allez changer votre raisonnement, vous allez changer vos pensées, vous reconnaissez que vous êtes sur une mauvaise voie, et vous décidez de changer de direction. Et ça veut dire que c'est ça que Jésus fasse, veut qu'on fasse, changer de direction. Ça s'adresse aux inconvertis, puis ça s'adresse. Allô? Dites-le, ça m'adresse à moi aussi. Alléluia. La repentance, c'est des sujets qu'il faut y aller. Le royaume de cieux se réfère à l'autorité de Dieu, à la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez bien, j'ai sorti quelques lignes de pensée. Quand Jésus est arrivé dans ce monde, on sait que le milieu juif ou tout cela, c'est un milieu très religieux. Puis on le voit aujourd'hui avec les guerres, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et Jésus n'a pas été tellement exempt de toutes ces choses-là. Et les pharisiens, les scribes ou la classe religieuse n'acceptent pas le message de Jésus, n'acceptent pas le message de la repentance, soit le changement de cœur, ça ne passe pas. Pour les pharisiens, c'est le rituel, c'est la loi, c'est observer la loi de Moïse. Ces gens refusent un message de changement de cœur. Ces gens ne croient pas que Jésus est le Messie, le roi, le Fils de Dieu. Donc, ils ne croient pas qu'il va venir mourir pour eux. Puis, il y aura toutes ces choses-là. Mais Jésus, le message de Jésus dit, votre religion, ça ne change absolument rien. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de mon Père. Il dit, il faut que ton cœur change. Il faut que ça change. C'est le message où que Jésus prêchait la vérité. Alléluia! Oh, silencieux quand on parle de sa repentance. Hein? Le message de Jésus, c'est un message fort et puissant. C'est comme dire aujourd'hui, les gens aujourd'hui, on parle de Jésus, on va parler de l'amour de Jésus, de la grâce de Jésus. Les gens n'adhèrent pas. Au Québec, on est une nation laïque. Le Québec est laïque. Aujourd'hui, on sort tout ce qui est de religion au Québec. Mais on se fait prendre par d'autres choses. Quand il y a un vide à quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui va en prendre la place. Et on s'est fait voler tranquillement. Mais le chrétien doit prendre sa place. Alors, on doit revenir à nos positions en tant que chrétiens. Une société sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça ne va pas bien dans le monde. L'homme ne croit pas à la mort, ne croit pas à la résurrection de Christ. Il refuse de dire même que l'enfer, c'est pour nous faire peur. Êtes-vous déjà entendu ça? Tu veux nous faire peur. Bien, ça te fasse ton affaire ou pas, ça va te faire peur quand tu vas partir. Laisse-moi te dire, c'est le temps de se repentir avant de partir. Alléluia. L'homme suit sa religion. L'homme suit l'humaniste. Nous sommes dans une société d'humanistes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Jésus est venu nous emporter la mentalité, et j'aime le dire, et la culture du royaume de Dieu, où le cœur de l'homme doit changer. Que ce soit l'Église ou que ce soit l'extérieur, on a tous besoin de changement. Lisez Jean, moi j'aime Jean 10, j'appelle ça mon épître de Cotter, où que Jésus vient couper les arbres, les mauvaises herbes et tout ça. Jésus veut changer. Le cœur doit se convertir, changer de mentalité. Matthieu 18, 3, je vous l'ai dit, en vérité, parle encore aux Juifs, il parle aux... à toute la classe, je vous dis, en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Convertir, ça veut dire se détourner de son ancienne conduite et de changer son esprit pour regarder vers le crucifié et d'accepter la venue de Jésus qui va changer ta vie, qui va t'amener sur le bon chemin. Alléluia. Donc, les paroles de Jésus s'adressent à tous. Le message de Jésus a été simple. C'était un message de repentance. Pourquoi? Parce que le péché nous a corrompus. À quelque part, on est tous corrompus par le péché. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, les gens parfaits, je n'en connais pas. Et vous? On est tous, à quelque part, des pécheurs. On est tous été par là. Cette corruption vient de nos premiers parents. Par la venue, maintenant, Jésus est venu maintenant réintroduire le royaume des cieux parmi nous. C'était la mission. Et c'est pourquoi que chaque personne doit ajuster sa pensée sur Jésus. Pour ceux qui croient à Jésus, qui pensent à la repentance, qui admettent qu'ils marchent en nouveauté de vie, seront sauvés. Écoutez bien, Jean 6, 47, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et Jean 6, 33, 36, « celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce sera la mort éternelle ici. Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme le sauveur du monde. Alléluia. 1 Jean 2, 2. Jésus, lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, Jésus n'est pas mort juste pour les Juifs, mais il est mort pour toi, il est mort pour moi. Jean-Baptiste a reconnu l'agneau de Dieu qui est mort pour moi. La bonne nouvelle, alléluia, pour toute personne qui croit en Jésus-Christ, ses péchés peuvent être pardonnés. Il n'y a aucune, je le dis bien, aucune famille sur terre ne peut pas être bénie par Dieu. Aucune famille. Il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Il est venu pour libérer. Il est venu pour guérir. Il est venu pour nous délivrer des péchés. Il est venu pour nous emporter la délivrance, la guérison. Il est l'agneau parfait qui enlève le péché du monde. C'est la personne à côté de toi. Il est l'agneau. Il est l'agneau parfait. Alléluia. Rien ne peut résister à Jésus-Christ. Vous savez, j'ai lu pas mal cette semaine sur un sujet qui est très, très passionnant. Quelle différence a-t-il entre les Juifs pour la Pâque et pour nous, la Pâque? Il y a une différence énorme. Vous savez, la Pâque que nous avons célébrée, que nous célébrons dans la Semaine Sainte, pour les Juifs, c'est la Pessah. Qu'est-ce que la Pessah? Vous savez, c'est l'une des périodes les plus importantes pour les fêtes hébraïques. Et la Pâque correspond au mois de Nissan et au mois d'avril, mars et avril. Et l'histoire juive nous enseigne la captivité du peuple juif, selon le livre d'Exode. Et Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Mais Moïse, il n'a pas voulu, il a été dur, il s'est entêté, son cœur s'est endurci. Dieu, donc, a décidé d'envoyer 10 plaies. Et il y a 9 plaies qui n'ont pas tellement bien marché. Il a fallu qu'en mettre une 10e plaie, et celle-là va faire mal. Et la 10e plaie est liée aux morts des jeunes enfants. La 10e plaie. Et le 14e jour du mois de Nissan, Exode 12 nous donne les détails de la Pâque juive. Dieu demande à chaque famille juive de sacrifier un agneau, un chevreau d'un an sans tache et de le cuire et de prendre le sang, le mettre sur les poteaux, sur le linteau. Et le sang permettait à Dieu, quand l'ange exterminateur passerait, donc d'épargner les Juifs. Quand l'ange de la mort passerait, ils seront épargnés à cause du sang. L'ange, quand il passait par-dessus les maisons. C'est ce qu'on appelle la Pessah, qu'il passe par-dessus la maison. C'est la Pâque juive. Donc, et Dieu a demandé de manger du pain sans levain qu'on appelle le matzot et des herbes amères. Pour les Juifs, la Pâque, c'est la sortie de l'Égypte, c'est la formation du peuple de Dieu qui sort de l'Égypte. Pour nous, aujourd'hui, Vendredi Saint, c'est l'avant-veille de la Pâque. On se rappelle la passion de Christ, le chemin de croix, la crucifixion. C'est un jour qu'on se rappelle de tout ce qu'il a souffert. Mais pour les Juifs, c'est la sortie de l'Égypte. Pour nous, Vendredi Saint, c'est la mort. Deux choses complètement différentes pour les Juifs. Comprenez-vous? Nous, aujourd'hui, on prêche sur ça. Pour les Juifs, la Pâque, ça n'a pas la même signification que nous. Deux choses différentes. Vous savez, le jour avant la mort de Jésus, je rentre dans mes derniers points, le dimanche des Rameaux, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus qui est rentré à Jérusalem cinq jours avant la Pâque ou six jours avant la Pâque. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il a été acclamé. Lisons ensemble Jean chapitre 12, versets 12 et 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent devant lui, criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». On voit ici l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le peuple acclame, Hosanna, Hosanna, il l'acclame comme un roi. Et Hosanna, ça veut dire en réalité, s'il te plaît, sauve. Et au moment où que Jésus a entré dans Jérusalem, il fut accueilli comme un roi, on lui a mis des rameaux par terre, et le peuple disait en réalité, en criant Hosanna, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, ton salut vient de toi. Tu es notre délivrance. Tu viens pour nous secourir. Tu viens pour nous emporter la victoire. Hosanna! Hosanna! Hallelujah! C'était le cri du cœur du peuple. Et ils ont accueilli Jésus comme leur sauveur, leur espérance d'être délivrés. Ils sont sous le joug romain. Ils attendent un militant qui va les délivrer de l'Europe. Mais Jésus est venu pour délivrer le cœur. Hallelujah! Et la Bible nous enseigne également que malgré que Jésus est acclamé comme roi, le vendredi, on va le crucifier. Ce qui correspond, écoutez bien, à la fête juive, soit au jour de la célébration de la sortie de l'Égypte pour les Juifs, soit le 14 du mois de Nissan. L'histoire nous enseigne qu'il y a eu un complot pour mettre Jésus à mort. Lisons ensemble, et j'avance rapidement. Matthieu 26, verset 2 et 3. Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délivrèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Maintenant, les sacrificateurs, les anciens vont se réunir pour vraiment éliminer Jésus. C'est vraiment par ruse, là. Et ils vont rencontrer Caïphe, le souverain Caïphe. Ils vont arrêter Jésus. Donc, les Juifs, les souverains sacrificateurs, la classe religieuse, n'aiment pas Jésus. Ils veulent le voir mourir. Jésus les dérange. Jésus a touché leur conscience. Quand ta conscience est touchée par les péchés où tu ne veux pas te repentir, tu es affecté s'il n'y a pas de repentance. Donc, Jésus les défiait, Jésus les reprenait et Jésus même, pour aller plus loin, guérissait au jour du sabbat. C'était un sacrilège pour les Juifs. Ils détestaient la classe. La classe religieuse détestait Jésus, mais il était aimé du peuple. Jésus a été acclamé et par sa société. Il a vu les miracles, il a vu les signes, il a vu les prodiges. Hallelujah! Et nous avons besoin encore, Jésus fait ces choses aujourd'hui. Combien le croient que Jésus fait encore la guérison, la restauration, la délivrance? Il est venu pour cela. Il est venu t'annoncer la bonne nouvelle, que Jésus sauve, guérit, restaure. Les gens aiment Jésus, mais les religieux le détestent. Donc, Jésus, en réalité, pourquoi les gens l'aimaient? Faites-vous déjà posé la question? Je l'ai déjà enseigné, mais je l'ai fait un petit peu plus court. Parce que Jésus parlait de leur citoyenneté. Jésus leur offrait un style de vie meilleur, un avenir plus brillant qu'aucun royaume humain ne pouvait nous offrir. La classe religieuse le déteste, mais les gens du peuple aimaient. L'homme, Jésus, l'homme sans péché, écoutez bien, a enduré le martyre pour nous délivrer de nos péchés. Il fut trahi par Judas par 30 pièces d'argent, connu un jugement illégal devant le souverain Anne, Caïphe, Pilate, qui était complètement illégal. Le souverain sacrificateur, Caïphe, a demandé à Jésus s'il était le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a répondu oui. Suite à cela, Caïphe va déchirer son linge et dire « il vient de blasphémer ». Dans le jugement légal, Cet homme a bravé la loi lévitique. Lévitique 21:10, le souverain sacrificateur ne déchira point ses vêtements. Il a défié déjà dans son jugement illégal la loi. Le souverain sacrificateur, les anciens, les scribes ont bandé les yeux à Jésus, m'ont lui craché dessus, m'ont lui donné des coups de poing, des claques au visage, puis en disant, prophétise, dis-nous qui t'a fessé, juste avant de le présenter à la foule. Et vous écouterez, je prends le temps de dire, vous écouterez le message que notre frère Stéphane a fait, parce que Stéphane m'a dit, de chez nous à chez vous, vous allez comprendre la suite, je n'ai pas voulu rentrer avec Stéphane, avec ça, mais vous l'écouterez, c'est très fort comme message. Et Pilate a demandé à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus le confirme. Et à chaque fête, on pouvait libérer un prisonnier. Pilate va demander à la foule, « Qui voulez-vous libérer? » Lisons ensemble. Matthieu 27, 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Ils le détestent. La classe religieuse le déteste. Ils ont j'appelle ça des agitateurs de foule pour faire mourir Jésus. C'est tout aussi simple que ça. Et ça a marché. Et le peuple va dire, Matthieu 27, versets 25 et 27, « Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le relâcha, Barabbas, et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Le peuple préfère un meurtrier, Barabbas. Le peuple demande de crucifier Jésus-Christ, le roi des Juifs, le rédempteur, le sauveur d'Israël. Pilate s'en lave les mains. Et pour finir, il va dire dans Jean 19, 14, « Voici votre roi. » Cette déclaration transforme Jésus en l'agneau pascal. Jésus va affronter une mort. J'ai pris quelques commentaires pour vous donner un peu la souffrance qu'il a souffert. Une mort horrible avant la crucifixion. Le but de la crucifixion, c'était la torture en réalité. Et quand on crucifiait quelqu'un, on le flagellait avant. Et la crucifixion et la flagellation étaient très difficiles. Donc, vous voulez faire passer un message aux gens, si vous faites un péché ou si vous êtes pris comme malfaiteur, vous allez être crucifié. Et c'est pour ça qu'ils prenaient les gens, ces gens-là, qui étaient dans des places publiques pour que les gens voient le martyre des gens. Mais avant, les prisonniers étaient flagellés. Écoutez bien, les Romains utilisaient un fouet appelé flagellium. Flagellium. Et au bout de chaque corde, au bout de chaque lanière de cuir, il y avait des fragments d'os, de métal, attachés à ces lanières de cuir. Jésus attachait un poteau avec les mains liées, il recevait la flagellation. Le nombre de coups de flagellation que Jésus a reçu, on ne le sait pas comment que c'est. Cependant, la loi juive, la loi hébraïque, disait pour un malfaiteur 40 coups moins un coup. Mais ici, c'est la loi romaine. Il est jugé selon la loi romaine, on ne sait pas. Donc, mais malgré cela, les coups étaient tels. Selon les historiens, il y avait deux soldats romains qui flagellaient Jésus. Et il avait reçu deux tiers de ses coups de fouet sur le dos. Et l'autre tiers était sur l'avant, sur la poitrine ou sur le corps. Et ces coups de fouet étaient tellement terrifiants que la chair était coupée, déchirée au point tel que les veines, écoutez bien, les artères et même parfois les organes internes paraissaient. Ce n'était pas rare d'avoir une victime mourir avant d'aller à la croix. Et c'est sûrement une des raisons pourquoi que Jésus a tombé en cours de route. Après la flagellation, on se moquait de Jésus. On lui a mis un manteau de pourpre, de rouge violacé, et qui lui a enfoncé sur la tête une couronne d'épines. Ça a l'air, certains commentaires, j'ai dit, ça pouvait aller jusqu'à 10 cm quand ils ont mis ça sur la tête. Le sang qui a coulé également. Et comme flagellation, comme c'est pas assez, Marc, chapitre 15, verset 18 et 19, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachèrent à la tête. chaque avec un roseau, crachait sur lui, fléchissait les genoux, il se prosternait devant lui. Les soldats, aucun cœur, aucun sentiment, ont frappé Jésus sur la tête, encore une fois de plus. Et t'imagines la souffrance? Ils ont lui craché dessus, un signe de mépris. Ils ont fléchi les genoux devant Jésus, signe de moquerie devant Jésus. Et après ça, ils ont mis ce manteau-là. Tu t'imagines le dos de Jésus? Il est meurtri, ça saigne, ils lui mettent un manteau. Et après, on lui arrache le manteau. C'est à vif. Imagine la douleur de Jésus. Et après ça, on lui a donné ses vêtements. Acte 8, 32. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Après la flagellation, Jésus a voulu qu'il porte, qu'on dit la croix. Encore selon que j'ai lu, puis encore des deux pensées, moi je pense cette pensée-là, qui ont pris un batilulaire, c'est-à-dire un morceau de bois. Ils l'ont mis sur ses épaules, c'est-à-dire meurtri, ou qui était flagellé. Un morceau de bois qui pouvait peser jusqu'à 50 kg. 50 kg, c'est 100 livres et plus, qui pouvait aller là. Et à partir de ce moment-là, Jésus a tombé. Simon l'a levé à se relever. Une fois arrivé au mont Golgotha, soit qu'on appelle le lieu du crâne, il y avait un autre morceau de bois qu'on pouvait ajouter au batipulaire. Et à partir de ce moment-là, au centre de l'autre morceau de bois, il y avait un centre qu'on pouvait... Où la personne qui mourait, qui était pour décéder, c'était son appui. Et c'est là qu'on crucifiait les pieds à Jésus, de sorte que les pieds et les mains ont été crucifiés. À partir de ce moment-là également, qu'est-ce qui n'est pas facile pour lui, les clous ils ont été enfoncés, il y en a qui disent dans les poignets, mais tout ce monde s'entend dire qu'il était crucifié dans les poignets. Et à partir de ce moment-là, c'est des clous de 20 cm qui étaient plantés, avec un centimètre d'épaisseur. Tu t'imagines? Donc, Jésus allongé sur la croix. Donc, et tous ces clous-là qui étaient cloués, selon encore les scientifiques, ils disent que ça causait des douleurs dans le haut, dans les bras, jusqu'aux épaules et jusqu'au cou. Et après avoir cloué Jésus à la croix, à ce moment-là, quand on soulevait la croix, donc il y avait une pression terrible qui venait, donc sur les poignets, sur les bras et sur les épaules. Donc ça provoquait, selon toujours ces gens-là, la dissolution, les articulations des épaules et des coudes. Au-dessus de la croix, il était marqué « Celui est Jésus, roi des Juifs ». T'imagines-tu qu'est-ce que tu es en train de dire? Pour toi, pour moi, il a souffert ça. Puis nous, on a le culot de s'engueuler entre nous. On a le culot de faire des mauvaises choses entre nous. Allô? Quand Jésus nous parle de l'amour, quand il nous parle de sa grâce, il nous parle de sa mort. Comment qu'il est mort pour moi et pour toi? On devrait glorifier le nom de Jésus et acclamer les bienfaits qu'il fait pour nous. De dire merci Jésus pour ta mort. Alléluia! Merci Jésus pour que tu sois fait. Quand Jésus te regarde, il voit tes défauts, il voit mes défauts, il voit tes biens, puis il voit tes biens. Mais tous ensemble, on fait partie de la famille. Il est crucifié pour chacun de nous. Alléluia! Mais même au prix des malfaiteurs, des deux crucifiés, ils sont moqués de Jésus. Les passants se moquaient de Jésus. Les soldats sont moqués de Jésus. Ils ont tiré ses vêtements au sort. Les principaux sacrificateurs, la classe religieuse, lui ont dit, « Si tu es le roi des Juifs, descends de ta croix. » Dans son grand amour pour nous, Jésus a pensé plutôt aux autres qu'à lui-même. Il a vu sa mère qui pleurait au pied de la croix. Puis il a dit à Jean, « Prends soin de ma mère. » L'autre personne, un des deux crucifiés, qui s'est repenti, Jésus dit, « Aujourd'hui même, tu vas dans le paradis avec moi. » Chacun, l'amour de Dieu. Laissez-moi vous dire, au bout de ses souffrances, Matthieu 27, verset 48, verset 46, « Et vers la sixième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je ne sais pas, moi, avoir passé toute cette souffrance-là, je ne sais pas, je m'aurais rendu là, moi, vous, 40 coups de fouet, clous dans les mains, à terre, plus de force, à bout de souffle, à bout de force, au dernier point, à cette heure culminant avant sa mort, Jésus a dit, « Père, Père, pourquoi tu m'abandonnes? » Ça, ça témoigne la séparation d'avec son Père. Jésus prend la place, notre place, comme pécheur. Et Dieu le Père, il voit le sacrifice de son Fils. Mais Jésus est celui qui va prendre le péché. La tristesse, le chagrin, la douleur est à son comble. Il a été blessé pour nos péchés. Il s'est donné en rançon pour nous. Celui qui n'a point connu le péché. Mais Dieu le Père le fait devenir pécheur, pécheur, péché pour nous. Alléluia! Il se sentait seul sur le point de rendre son âme. Les gardiens lui ont mis du vinaigre. T'imagines, du vinaigre, t'as soif. Il donne du vinaigre. C'est bon, du vinaigre. Hein? Avez-vous déjà bu du vinaigre? À bout de souffle, Jésus, à cette croix, écoutez bien. Galates 3.13. Je me demandais à mon frère Stéphane, qui a commencé à mettre la petite musique douce. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Tout cela a été annoncé déjà par le prophète Isaïe, 700 ans avant sa mort, de toutes les souffrances que Jésus était pour avoir. Jésus est venu pour reprendre ce que Satan a volé à l'homme. Jésus devrait souffrir pour nous redonner cela. Jésus devrait souffrir également pour anéantir celui que le pouvoir de la mort, Satan, afin de redonner à l'homme une communion avec le Père et le pardon de nos péchés. Ésaïe 53, verset 3 à 10, on va lire. J'aimerais qu'on puisse se lever ici, on va se rasseoir après, mais par respect, parce qu'il a fait ça pour nous. Écoutez bien chaque parole. Moi, j'ai pleuré cette semaine en lisant ça. Et puis ça me touche vraiment, ces textes-là. Pasteur Stéphane.
Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'y a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et Amen. Prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Aujourd'hui, ça me brasse. Je me rappelle le 38 ans où j'étais dans la drogue, où j'étais complètement perdu. Je faisais de l'argent, j'avais un resto, l'argent allait bien, mais j'avais le problème de drogue. Mais Jésus, quand je l'ai accepté, il est venu me délivrer. Il est venu de faire de moi une nouvelle créature. Parce qu'il a été brisé à la croix, qu'il a été cloué à la croix, qu'il a pris mon péché. Puis il n'a pas dit, Serge, t'es parfait, tu acceptes. Il dit, je te prends tel que t'es, moi je vais te changer. L'amour de Dieu qui est venu dans ma vie, il a pris à la croix la malédiction, notre esclavage, pour nous délivrer de l'empire du péché, pour nous accorder le pardon. Il a été l'agneau pascal qui fut agréable, odeur devant Dieu. La chair a été consommée. Le sang coula pour notre salut. Alléluia. Lui qui est sans péché, pour que nous venions en lui, justice de Dieu. Comprenez-vous mieux la justice de Dieu? L'amour de Dieu, la compassion de Dieu, quand nous parlons de la justice de Dieu, c'est pas notre justice, mais c'est sa justice qui me prie pécheur, délivré, restauré, guéri, pour faire de moi une nouvelle créature. Ça, c'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand miracle que ces choses-là. Jésus nous a donné une nouvelle vie, et à la croix, et je termine, à ce moment-là, à la mort, quand crier à son dernier souffle. Tout est accompli. Matthieu 27, 51-52. Voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les séculs s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, des morts ressuscitèrent. Alléluia. C'est passé quelque chose. Le voile a été déchiré, fini le sacrifice, le sacerdoce royal ou juste le souverain sacrificateur une fois par année qui fait entrer dans le lieu saint. Fini, le voile est déchiré. Tu peux ressusciter de ta mort aujourd'hui, spirituel. Alléluia, le voile est déchiré. Si tu crois que Jésus-Christ peut changer ta vie, lève la main ce matin. Si tu crois que Jésus peut faire une œuvre de transformation dans ta vie, change, dis-le avec moi. Je veux qu'il fasse une vie de transformation. Il est mort pour moi. Il est crucifié par moi. Il m'a donné sa vie. Commencez à réaliser cette grandeur de l'amour, de la grâce, de la compassion de Dieu. Le voile est déchiré. Et après ça, la Bible nous dit qu'un garde qui est venu, et un dernier coup de lance, le sang. Et l'eau est sortie. Par sa mort, deux derniers versets, 1 Jean 3, 8. Écoutez bien, c'est pas juste le pardon. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations, les a livrés, et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce jour-là, c'était la défaite de notre ennemi. Ce jour-là, Jésus-Christ a pris mes péchés, tes péchés, le salut par grâce, à 9 heures du matin, l'heure de Jérusalem, notre heure, 3 heures, alléluia, il a expiré pour te donner le salut. Ça, ça n'a pas été de l'humilité, mais c'était la victoire. C'était la victoire. Il s'est humilié en tant qu'homme, mais la victoire est venue par la croix. Alléluia. Combien sont prêts à dire avec moi cet après-midi, « Seigneur, apprends-moi à comprendre mieux ta justice. » Dites-le, « Seigneur, apprends-moi à mieux saisir cette grâce-là. » Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, ou que tu dis, « Ah, dimanche, je vais avoir un beau petit chocolat, un beau petit lapin. » Mais Pâques est passé parce que le vendredi, on vient de le passer. C'est là la Pâque juive. Donc, dimanche, j'espère que tu n'auras pas les restants. Allô? Si tu ne connais pas Jésus cet après-midi, regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Peut-être, j'aimerais que les musiciens puissent s'approcher, me faire une musique de fond pour aller encore plus loin. On va prendre également la Sainte-Sainte et je vais demander à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ, comme leur sauveur personnel, on va prendre le repas du Seigneur. La Sainte-Sainte appartient à l'enfant de Dieu. Donc, si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est mieux peut-être d'attendre que tu connaisses le plan du salut et d'attendre ce moment-là de prendre le repas. Mais si tu es sauvé, né de nouveau, alléluia, baptisé d'eau, le repas du Seigneur t'appartient. On se souvient qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Amen.